Tri et le yoga des cellules. Sélection de Deutsch Pandé. Rédaction et traduction Lily et Marc Desplanck. La transformation physique, les premiers signes. Il semble possible d'affirmer qu'au cours de la tapasya yogique de Sri Aurobindo, le processus de la dernière transformation physique décisive débuta vers le milieu des années 30. Sri Aurobindo avait déjà obtenu le Siddhi, ou la réalisation de la conscience surmentale dans le physique, en novembre 1926. Cette réalisation du surmental fut l'occasion d'une certaine globalité de son fonctionnement sur le plan matériel. La volonté devait se transformer en volonté dans le physique même. Cette transformation du physique soumis à la mort fut certainement un effort des plus ardus, dont il est peut-être possible de trouver un équivalent dans les recherches isolées d'un lointain passé, et plus particulièrement dans la tapasya védique du Rishi Agastya. Mais le corps du Rishi à cette époque reculée ne peut résister à l'effet du triple poison et finalement contraint d'abandonner la difficile tentative. Le corps physique n'était pas prêt à recevoir la toute-puissance de la lumière immortelle. Il ne possédait pas la capacité spirituelle pour ce faire. Il était un vase d'argile non cuite, atapta tanu, un pot de terre brute. Un autre genre de tapasya était requis pour surmonter cette difficulté. Les cellules du corps n'étaient pas encore éveillées à la réalité cachée profondément en elle. Dans la marche de l'évolution, le travail décisif de préparation de la conscience surmentale n'avait pas non plus été organisé ni accompli collectivement. Ce fait particulier s'est produit beaucoup plus tard, seulement après la venue de son avatar vers la fin du Dvapara Yoga, à l'époque de la guerre du Mahabharata. Après des siècles de longues préparations expérimentales, la tâche novatrice du pionnier qu'était le Rishi Agastya fut reprise par Sri Aurobindo, qui l'amena à un lumineux et décisif accomplissement. Si l'on admet que dans l'histoire évolutive de la Terre, le moment est décrété et que le Suprême lui-même donne son aval, le problème de la nature inconsciente était cependant resté non abordé. La nature inconsciente fut l'objectif principal de Sri Aurobindo. Un effort double, d'une part d'invoquer et de faire descendre le dynamisme de la suprême vérité sur le plan terrestre, et d'autre part de préparer la nature matérielle inconsciente et non régénérée à recevoir la suprême vérité, puis à la manifester sans entrave. Les conditions de la tapasya yogique spirituelle et occulte dans laquelle Sri Aurobindo et la mère étaient engagés ensemble ont démontré que cela a été réalisé. De nouvelles portes s'ouvrirent, les portes radieuses du physique, autorisant la venue des dimensions de l'infini dans le jeu de la terre. La descente de la lumière et de la force supramentale dans le plan physique subtil est dorénavant un fait accompli. Connaître les différents stades par lesquels la tapasya de Sri Aurobindo et de la mère était passée était extrêmement édifiant. Nous avons quelques aperçus dans un certain nombre de leurs écrits de l'époque et en particulier dans les compositions poétiques de Sri Aurobindo, lesquelles contiennent souvent d'indiscutables éléments autobiographiques. Dans une lettre à Dilip Kumar Roy, La transformation physique, les premiers signes écrits en 1933 évoquent le fonctionnement de la vérité dynamique en ces termes. Ce que fera le supramental, le mental ne peut le prévoir ou l'établir. Le mental est une ignorance qui cherche la vérité. Le supramental est par sa nature même la conscience de vérité. La vérité en possession d'elle-même et s'accomplissant par son propre pouvoir. Dans un monde supramental, l'imperfection et la désharmonie sont forcées de disparaître. Ce que nous proposons aujourd'hui n'est pas de faire de la terre un monde supramental, mais de faire descendre le supramental en tant que pouvoir et d'établir sa conscience parmi ce qui est déjà là, afin de le laisser agir et s'accomplir ici-bas. Cela suffirait pour changer le monde et la nature en brisant ses limites actuelles. Mais comment cela se fera et par quel stade, il vaudrait mieux ne pas en parler aujourd'hui. Lorsque la lumière sera là, la lumière elle-même fera le travail. Quand la volonté du supramental sera sur terre, c'est cette volonté qui décidera. Elle établira une perfection, une harmonie, une création de vérité. Pour le reste, eh bien, ce sera le reste et c'est tout. Mais Sri Aurobindo devait accomplir sa tâche. Il devait creuser et creuser encore la boue du subconscient. De ce creusement, dont il dira ailleurs, non pas monter et monter, mais descendre et descendre. Nous pouvons avoir quelques idées à la lecture d'une strophe de son poème « Le labeur d'un dieu ». Encore non publié à l'époque, c'était en 1935, il l'avait envoyé à Dilip Roy. Qui veut tirer ici-bas les cieux doit lui-même descendre dans l'argile et porter le fardeau de la nature terrestre et suivre la douloureuse voie. Voilà donc ce qui occupait Sri Aurobindo à cette période. Il voulait construire un pont, un arc-en-ciel entre la terre et le ciel, et ce faisant, il forçait la divinité à accepter la naissance et la mort, la misère et la souffrance des conditions obscure et sordide ici-bas. Mais quel Dieu accepterait de descendre et de relever ce défi, qui consentirait à franchir les portes de la naissance qui est une mort? Seul le divin lui-même, l'avatar, peut accepter. Il descend, il accepte les conditions mortelles. Mais il faut aussi se souvenir que peut-être cette descente épuisante et la percée dans la boue aurait pu être évitée, qu'il aurait pu y avoir une voie plus douce vers le but. Il y eut en fait une authentique probabilité de victoire à courte échéance. En 1935, Sri Aurobindo écrivait en ce sens à Nirodbaran: la lumière supramentale descendait avant novembre 1934, mais ensuite toute cette satanée boue est remontée et l'a bloquée. Mais il en reste deux lumières pourpres. L'une est l'amour divin supramental, l'autre est la force physique supramentale. Tout naturellement, la préoccupation de Sri Aurobindo se tourna vers la question de cette satanée boue. Il n'était pas occupé par les béatitudes de l'esprit, mais par les conditions présentes dans ce monde ignorant, jusque dans la boue. Il devint plus affairé par cette opposition de l'enfer que par la conquête de l'empyré, en sorte que ses semences pourpres puissent germer, puis fleurir dans cette boue sinistre. Mais sous la pression de la force au-dessus, la révolte du subconscient en dessous devint elle aussi plus féroce, et il existait le danger réel d'un éveil prématuré de la divinité. Cet éveil même pouvait aboutir à une destruction totale. Le support Adhara n'était pas prêt. L'action de la force physique supramentale provoquait des réactions obscures au plus profond de la matière inconsciente. Il fallait bien évidemment faire face à cette obscurité et la vaincre. Il faut accepter la réalité du mensonge et ses aspects opérationnels jusque dans leurs détails les plus sordides et les plus sombres. Il fallait, dans le pragmatisme de cet effort spirituel, qu'elle soit entièrement connue. La yoga tapasya prit donc une autre orientation. En 1935, Sri Aurobindo donne un aperçu de ce combat aux racines de l'obscurité de la création terrestre dans le court poème déjà cité, Le labeur d'un dieu. Ce poème est sans contexte un récit autobiographique retraçant ce qu'il tentait d'accomplir à ce moment-là. Nous ne pouvons penser, ne serait-ce qu'un moment, qu'au milieu de ce labeur grave et douloureux, Sri Aurobindo, le poète né, se laissait simplement aller au lyrisme enchanteur des muses, pas plus qu'il ne faisait que présenter en langage poétique, un récit ou un agenda de ses expériences spirituelles de l'époque. Cela ne siégerait pas à Sri Aurobindo, le yogi. Il est plus probable, en un certain sens, que Sri Aurobindo ressentait la nécessité de donner une forme définie, concrète, complète à la difficulté tout entière, afin de la traiter en tant qu'opposition tangible et objective à la nécessité de son travail divin, La révolte du subconscient devait être vue, reconnue comme un aspect de tapasya pour la transformation de l'homme et de la terre. Tout au long des millénaires blafards, stériles et laborieux de l'histoire connue et inconnue, l'homme resta l'homme. Et la terre douloureuse vit des souffrances cruelles et sinistres. Il y eut nombre de hautes descentes au cours des temps. Des prophètes vinrent qui, dans une certaine mesure, rachetèrent le destin. Et les avatars, les uns après les autres, descendirent au cours des âges du déclin et de la vertu. Des lumières nouvelles remplirent les cieux, apportant secours aux races souffrantes. Mais rien n'a changé, tant soit peu, ni de façon radicale, dans l'épaisseur opaque de l'inconsciente nuit. Ces lumières ne suffirent point, il fallait y regarder de plus près. Pour sonder cette nuit opaque, Sri Aurobindo est allé où nul n'était allé. Intrépide, il essaya de gagner son cœur obscur et dangereux. Il commença à creuser plus profond encore, Kanan, évoqué par le Rishi Agastya. Et il frappa la porte sans clé, mais là atteint la lugubre, effrayante demeure de la nuit. Là, il vit un mensonge, qu'un mensonge était enfoncé à la racine même des choses, où le sphinx gris garde en sommeil l'énigme de Dieu sur les ailes déployées du dragon. Il regarda droit dans les yeux la nuit nue du regard droit du feu de l'esprit et lui parla d'une prompte longue de flamme orangée or, la lumière du suprême. Tout au long du voyage, dans l'obscurité inexorable, fut son compagnon infaillible avec lequel il était totalement un. En vous disant à mercredi prochain, mais avant tout, une immense, immense gratitude à Sri Aurobindo et Douce Mère d'avoir permis à l'homme de la terre la transformation. Merci Sri Aurobindo, merci Douce Mère. Alors ce texte vient de R.Y. Deshpande. Merci à ce disciple de Sri Aurobindo et de Mère, Ganga Lakshmi.